5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Donc, tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Eh oui, mes bons amis, c'est l'Auberge espagnole du mardi 2 avril. On va commencer assez rapidement et je vais commencer par faire un mea culpa. Ce n'est pas Florence Tarusson, mais Florence Bouillon que nous allons avoir en interview tout de suite. Florence Bouillon qui est un socio-anthropologue et qui était au téléphone avec notre cher Gilles Gougel et l'invité du bistrot des ethnologues de mercredi 3 avril donc à la Laiterie, auteur de son dernier ouvrage, Le squat problème social au lieu d'émancipation. Mercredi 3 avril donc à 20h30, le bistrot des ethnologues invitera Florence Bouillon, la socio-anthropologue et maître de conférence en sociologie, à l'université Vincennes-Saint-Denis, Paris 8, MMS, chercheur au centre Norbert Elias, EHESS. Rien que ça, elle était au micro de Gilles Gouget pour parler de la conférence débat Le squat, un révélateur de la lutte sociale, et on va l'écouter. C'est parti.
Nous sommes au téléphone avec Florence Bouillon, qui est l'invitée de demain du bistrot des ethnologues. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes socio-anthropologue, vous êtes donc l'invité du bistrot des ethnologues ce mercredi à la Laiterie autour de votre ouvrage Le squat, problème social ou lieu d'émancipation. C'est donc demain soir à 20h30 dans le cadre du bistrot des ethnologues. Est-ce que c'est votre premier bistrot?
Oui, tout à fait, c'est mon premier bistrot et je suis très heureuse et honorée d'y participer.
Alors vous êtes socio-anthropologue, maître de conférence en sociologie à l'université 8 Vincennes-Saint-Denis et chercheuse au centre Norbert Elias de l'EHESS. Comment vous êtes arrivée à travailler ce terrain particulier et très actuel?
Alors oui, ça a débuté dans un autre contexte qui est celui de Barcelone il y a pas mal d'années, presque une quinzaine d'années maintenant. Pour retracer brièvement mon parcours, j'ai commencé par faire des études de sciences politiques et une licence d'anthropo en parallèle. Et à l'issue de ça, j'avais passé une année de séjour linguistique, notamment à Barcelone. Et là, j'ai rencontré le mouvement des Ocupas, hein, qui est un très vaste mouvement extrêmement dynamique de réquisition de bâtiments vides et puis d'activités politiques, militantes, d'animation de vie de quartier, etc. Et en revenant en France et à Marseille où j'ai entamé un DEA, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un master, j'ai eu envie de continuer à poser cette question du squat, à m'intéresser plus simplement au squat. Et je pensais à l'époque travailler prioritairement sur la question du squat comme outil de mobilisation collective, comme lieu de militantisme. Et puis, peu à peu, en conduisant des terrains à Marseille, mon objet s'est un peu déplacé, sans abandonner complètement cette question des recompositions de l'engagement radical, on va dire, hein, dans ses formes contemporaines. J'ai été aussi amenée à être très souvent immergée dans des lieux très, très précaires qui posaient essentiellement la question de l'accès au logement. Et c'est un peu autour de cette question du logement, de l'habitat et de l'habité que j'ai reconstruit mes questions et mes objets de recherche.
Mmh. Parce que c'est vrai que y a deux stéréotypes qui peuvent coller à ce mot de squat. On va dire l'aspect des SDF qui dorment dehors et qui squattent un lieu, etc. Et puis donc là c'est parfois plutôt la foire d'empoigne que le collectif militant. Et puis cette notion qu'on a vu peut-être arriver un petit peu plus tôt dans d'autres pays que la France. Je pense par exemple à l'Allemagne où les squats très organisés existent depuis force années. Où là, c'est effectivement, il y a une revendication quelque part politique derrière. Donc, les deux ne vont pas forcément systématiquement ensemble.
Non, alors effectivement, on a, et même au-delà de ces deux grands types ou stéréotypes dont vous parliez, que vous évoquiez, on a en fait une très très grande diversité à la de squats, à la fois dans les espaces qui sont occupés, dans leur situation dans la ville, la qualité des espaces, hein, d'anciens logements, d'anciens bureaux, d'anciens hangars, qui évidemment n'offrent pas les mêmes possibilités en termes d'habitat, d'appropriation de l'espace, etc. Et évidemment dans les parcours aussi des personnes qui occupent et qui habitent ces lieux, dans leurs aspirations, dans leurs motivations, au-delà des personnes sans abri que vous avez évoquées, qui habitent pas d'ailleurs toujours sous la forme de la foire d'empoigne. Il y a des espaces où effectivement il y a des conflits, bien évidemment, et pas uniquement dans les squats, mais il y a aussi des personnes sans abri qui sont constituées en collectif et qui réquisitionnent des habitats sur le mode de l'autogestion. Et il y a certains lieux comme ça tout à fait connus à Toulouse et dans d'autres villes, dont certains ont une pérennité certaine et organisent tout un mouvement autour de cette question de l'autogestion des personnes sans abri. Mais on trouve aussi beaucoup dans les squats des gens qui sont des migrants et qui, pour diverses raisons, qui tiennent à la fois leur situation évidemment de pauvreté économique, mais bien entendu aussi toutes les formes de discrimination institutionnelle et non institutionnelle dont ils sont victimes, ont beaucoup de difficultés à accéder au logement. On trouve effectivement des gens qui sont des militants, de diverses d'ailleurs obédiences, si je puis dire, hein, comme vous l'évoquiez. Le squat est un espace d'ailleurs historique d'un militantisme, on va dire, pour le dire rapidement, anarcho-libertaire, qui entend le squat comme un espace de contre-pouvoir et puis aussi d'émancipation, de révolution au quotidien, qui permet d'expérimenter des alternatives à la société capitaliste et puis de lutter contre ce système. Mais c'est aussi évidemment les lieux du militantisme en faveur du droit au logement qu'on connaît bien, soutenu par des associations du type DAL, droit au logement ou Jeudi Noir. Donc on a une très très grande diversité d'espaces, mais je voudrais rajouter qu'on a aussi beaucoup, et puis des squats d'artistes, hein, qui font souvent, qui sont peut-être les plus médiatisés en France, même si le mouvement là encore n'atteint pas l'ampleur qu'il a atteint dans d'autres capitales européennes. Je voudrais quand même souligner que très très souvent on a des espaces qui sont mixtes, et que précisément, moi, en m'intéressant aux squats politiques, j'ai découvert que c'était souvent des lieux qui hébergeaient, qui accueillaient aussi des gens qui n'étaient pas forcément immédiatement dans des démarches politiques, mais qui avaient besoin d'être logés, qui éventuellement, via ces espaces, allaient trouver aussi des formes de socialisation politique. C'est des espaces qui font se rencontrer des univers sociaux très hétérogènes, et c'est une de leurs qualités, d'ailleurs, que de proposer, pas pour tous, mais pour beaucoup, une espèce de mixité en acte, pourrait-on dire.
Alors la solide enquête ethnographique que toutes ces années d'études de terrain vous a amené à faire vous amène à dire en substance que le squat fonctionne comme un miroir social reflétant à la fois les vulnérabilités et les résistances à l'œuvre dans la société contemporaine à une époque aujourd'hui où il est question finalement de le pénaliser. Donc est-ce qu'il y a aussi une mise en garde à faire au pouvoir public?
Oui, 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 complètement. Je pense qu'il y a là des choses, enfin, au-delà du propos scientifique, il y a évidemment une intention politique dans ce travail-là, même si c'est d'abord un travail qui essaie de rendre compte d'une réalité empirique telle que je l'ai observée pendant effectivement d'assez nombreuses années. Il y a de manière récurrente des tentatives de pénalisation, de criminalisation du squat, hein, sans en faire toute l'histoire. De manière répétée, hein, des propositions d'amendements, etc., qui viseraient à faire en sorte que les squatteurs non seulement puissent être expulsés sans décision de justice, puisqu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, l'expulsion d'un squat requiert, en tout cas théoriquement, parce qu'on a aussi affaire à des évictions qui se passent de manière illégale, hein, ou alors à des évictions qui se passent sur le mode du flagrant délit lorsque les personnes viennent d'intégrer le lieu. Mais à partir du moment où les personnes habitent ce lieu et peuvent en témoigner, peuvent en attester par des preuves matérielles, le squat devient un domicile et à ce titre-là, il bénéficie d'une protection qui n'est pas énorme, mais enfin qui a le mérite d'exister, qui n'est pas nulle, et qui veut qu'une décision de justice soit nécessaire. Donc un juge doit se prononcer sur l'expulsion, ce qui permet aux habitants de bénéficier de quelques quelques semaines, voire quelques mois, hein, de stabilité relative. Et puis ensuite, le préfet doit autoriser, hein, le concours de la force publique pour que l'expulsion ait lieu. Or, effectivement, on voit qu'on a des tentatives extrêmement itératives, hein, consistant à faire en sorte que soit les squatteurs soient assimilés à des délinquants, c'est-à-dire à des gens qui commettent des violations de domicile, et là on est passible de prison, de 15 000 euros d'amende, etc., soit qu'ils essaient de squeezer d'une certaine manière ce recours du juge pour faire en sorte que le préfet puisse prononcer l'expulsion, hein, immédiate et sans délai. Jusqu'à présent, ce sont des amendements qui n'ont pas été adoptés, probablement en grande partie suite aux mobilisations, hein, qui ont émané de très nombreuses associations et collectifs de défense du droit au logement. Et je pense qu'effectivement, c'est probablement, à mon sens, leurré que de penser que d'accélérer les expulsions va pouvoir régler un problème, une question, une problématique qu'on subsume ou qu'on réduit à la question du squat, mais qui est évidemment, bien au-delà de ça, celle de l'accès au logement. Et je pense qu'on peut tenter d'autres expériences, d'autres solutions, d'autres... on peut imaginer d'autres formes de résolution de cette question du squat que celle de l'éviction. Et d'ailleurs, on a une multiplicité d'exemples, à l'étranger essentiellement, hein, qui consiste à tenter des expériences où les personnes peuvent réquisitionner des bâtiments sous certaines conditions, en particulier lorsqu'ils appartiennent à la puissance publique, ce qui est le cas de très très nombreux bâtiments vides en France également. Et à partir du moment où les bâtiments ne sont pas l'objet d'un projet immédiat, laisser les gens s'y organiser, s'y abriter, s'autogérer et créer leur vie quotidienne. Je pense qu'il y a là quelque chose de plus intéressant certainement qu'une expulsion systématique de plus en plus rapide qui ne fait que reproduire, hein, et systématiser la pratique du squat qu'on cherche précisément à éviter.
En tant que miroir social, quelque part, virer les squatteurs, c'est ne pas oser se regarder dans le miroir.
Oui, alors on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. C'est effectivement ne pas oser en tout cas voir ce qu'est réellement le squat, c'est-à-dire un lieu qui est totalement produit par une structure sociale, hein, qui met à l'écart du logement ordinaire toute une frange extrêmement importante et de plus en plus importante de sa population. C'est donc effectivement effectuer une sorte de réductionnisme, hein, en ne caractérisant cet espace et ses habitants que par leur caractère d'illégalité, au lieu de voir toutes les questions qu'ils posent directement à la société et au corps social dans son ensemble et qui sont loin, très loin de ne concerner que les habitants du squat, qui nous concernent tous, en réalité.
Florence Bouillon, merci beaucoup. Les Montpelliérains auront l'occasion de poursuivre cette discussion après le bistrot de demain soir. Donc, je rappelle, ce mercredi 3 avril à la Laiterie, 4 rue Lunaret à Montpellier. C'est à 20h30. Il est conseillé de réserver au 09 54 93 44 36. Il le redit, 09 54 93 44 36. Autour donc du squat révélateur de la lutte des classes. On vous souhaite un excellent séjour à Montpellier. Un très bon bistrot des ethnologues.
Merci beaucoup.
Et merci Gilles Gouget, et remercie à Florence Bouillon, la socio-anthropologue. Je le rappelle, mercredi 3 avril à 20h30, ça sera le bistrot des ethnologues, où elle sera invitée. Le squat, un révélateur de la lutte des classes, conférence, débat à la Laiterie, 4 rue Lunaret à Montpellier. Toutes les informations, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, voire même le www.divergence-fm.org. Et sans transition aucune, on va s'écouter un petit titre dans cette auberge espagnole de Rachan Ahmad, un extrait de son prochain album intitulé Cérémonie. On en reparlera sans doute un peu plus longuement la semaine prochaine. Un album avec une production assurée par Vincile de C2C et de Hocus Pocus. Le titre qu'on s'écoute, c'est No No No, avec un featuring Homeboy Soundman, rien que ça.
Can you get with this, yo?
No, no, no.
You gotta understand, tell your people and your man, yo, choose another plan, cause
no, no, no,
you're not gonna get it one time if you're with it. All the haters and the critic, listen,
no, no, no,
me not gonna stop from the bottom to the top to my people on the block.
No, no, no,
we hearing all the time, so through it, but really,
can I do it? Of course I can. Through the sky, over block, past miles of sand. So super, loop back for my speech. At night with the freaks, no sleep. The creep be on 1-1, trying speed that on sale. My hot third rail, inhale, exhale. No frail, set sail, dispel the dumb. Try and yuck my yum with the song they sung. And the bars they brung. Where these ETs from? Pleasing tongues, I fly over them. Bum bum clock, rocks clock, clock, unclever. And even my blues more better. Stellar, cause it's necessary. True luminary, gold with the speaker, like lace to a sneaker, truth to a seeker. I'm a true visionary. Fly on a high womb to the cemetery. Long way, short time, bubble on the highway. Trouble on me all day, huddle up with guard play. Funny how they all say, money in the palm make, honey on the bone break. Down in the disco, rock steady on them. I'm on them and I'm all in, all them to the autumn. Disarm them with the charming, bomb them with the funk, but far from the gully. Drop them with the beautiful, gut them with the ugly. Can you get with this though?
No, no, no.
You gotta understand, tell your people and your man, yo, choose another plan, cause
no, no, no.
You're not gonna get it one time if you're with it. All the haters and the critic, listen.
No, no, no.
We not gonna stop from the bottom to the top to my people on the block.
No, no, no.
We hear it all the time, so fluid, but really, can I do it?
Really, can I do it? Nick suffering the curse of Pat Ewing. Never played with an all-star and almost brought us to two chips. Warren's in the front office, didn't give two shits. Yeah, I know the Starks and Oak Tree made the all-star team that one year where all the all-stars was hurt. But since we traded in, the proof is in the pudding. All Big Pat ever put in was work. Back pages read good riddance that sad morn. Then we tried to build a whole team around Van Horn. Scott Layden. I wonder how much they paid him to be a trade. I fucking hate him. Then it was the Isaiah era. It made me wanna learn capoeira. Run up in the front office, roundhouse kick every motherfucker in there. Holla fire D'Antoni if you been there.
Can you get with this, yo?
No, no, no.
You gotta understand, tell your people and your man, yo, choose another plan, cause
no, no, no.
You're not gonna get it one time if you're with it. All the haters and the critic, listen.
No, no, no.
Me not gonna stop from the bottom to the top to my people on the block.
No, no, no.
We hear it all the time, so do it, but really, can I do it?
Un extrait du nouvel album du MC Rashan Ahmad. L'album s'intitule Cérémonie. Le titre qu'on a écouté, c'était No No No, avec en featuring Homeboy Sandman. Et si vous avez bien aimé ce joli titre, sachez que, merveille de l'actualité, Rashan Ahmad sera sur la scène de Victoire 2 ce 6 avril prochain, c'est-à-dire samedi. Sans transition non plus aucune, vous êtes toujours sur Divergence. On va passer à la deuxième partie, deuxième sujet de cette auberge espagnole, partie société, deuxième partie donc avec Romain Tarusson qu'on a eu par téléphone ce matin, président du crew de Rider Crash Test, qui est à l'initiative de cette curieuse organisation Green Days, qui commence à faire parler d'elle. Green Days, c'est qui, c'est quoi? Crash Test, c'est qui, c'est quoi? Il y a un site internet greendays.org qui se lance aujourd'hui, merveille de l'actualité, je le disais, et il y aura l'effet des happenings de nettoyage en milieu urbain d'ici la fin mai. On fait le point avec Romain Tarusson.
Les Green Days, c'est un mouvement plus qu'un événement en fait, qui a été initié par l'association dont je suis président, donc l'association Crash Test, qui organise des voyages, on va dire, à tarif préférentiel, axés autour des sports extrêmes. Et on s'est rendu compte, en fait, lors de nos voyages, que la plupart des spots sur lesquels on pratiquait nos sports étaient jonchés de détritus. Et la prise de conscience a eu lieu il y a quasiment 3 mois, quand on était sur un spot près d'un skatepark, et qu'on s'est rendu compte que les fossés étaient jonchés de déchets. Donc on a décidé d'agir et de mettre en fait notre structure et nos compétences en fait à chacun à disposition de cette cause environnementale, en créant donc le mouvement des Green Days. Donc le mouvement des Green Days, c'est un événement qui va avoir lieu du 20 au 26 juin prochain, partout en France, enfin on l'espère, et qui a pour objectif en fait d'inciter les décideurs locaux, les leaders d'opinion, les associations, enfin tous les professionnels et les particuliers à organiser des opérations de nettoyage de l'environnement, donc dispatchés un peu partout dans la région. Donc pour l'heure, nous en avons 6 de prévus, dont 3 qui sont prévus par notre association Crash Test, et on essaye de développer en fait des partenariats avec pas mal de structures pour qu'elles organisent ces opérations et qu'elles diffusent les messages.
Ok. Et après, est-ce que les opérations peuvent être proposées aussi par les particuliers également via le biais du site internet?
Oui, également, oui. L'idée, c'est que via le site internet, donc greendays.org, qui est lancé aujourd'hui, les personnes, donc que ce soit particuliers ou professionnels, s'inscrivent en tant qu'organisateurs d'événements, d'opérations de nettoyage, et que par la suite, en fait, elles mobilisent leur réseau autour de cette cause.
D'accord. Alors déjà, tu évoquais des opérations qui sont déjà programmées. On en aura une qui se passera après le FIZ, autour des berges du Lez, la plage de l'Espiguette également, qui a besoin d'un petit ravalement de temps en temps, le bois de Montmort, avec les Scouts laïcs de France, les rives du Gardon sur le site du Pont du Gard et le campus de l'UM2. C'est vrai que dans ces endroits-là, il y a quelques petits soucis de temps en temps après des manifestations, par exemple.
C'est clair, oui. Puis on a aussi une opération qui est pas mal, puisqu'elle allie, on va dire, protection de l'environnement et plaisir, qui est organisée par une société de loisirs sportifs à Amiens qui s'appelle Rocket Canyon, et qui organise, en fait, la date est à fixer, on reste à fixer encore, mais une descente en canoë gratuite de la rivière d'Ourby avec au programme, on va dire, sensibilisation à la cause environnementale et récupération de tous les déchets qui peuvent jonchés les berges de cette rivière. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la plupart des sociétés et des décideurs à faire de même, puisque bon, l'environnement en a besoin.
D'accord. Alors aujourd'hui, du coup, c'était le jour de lancement. Aujourd'hui, ce mardi 2 avril, c'est le jour de lancement du site greendays.org. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver, à part justement, comme on disait, les projets, hein, les projets en prévision, les inscriptions, etc. Il y aura des vidéos, il y aura des liens. Comment ça se passera? Qu'est-ce qu'il aura?
Voilà, oui, il va y avoir pas mal de contenu, que cela soit des actualités, notamment des actualités de nos sociétés partenaires, puisqu'on a quatre sociétés partenaires qui nous aident dans la communication des Green Days, mais aussi l'actualité de nos ambassadeurs, puisqu'on a le skipper Quito de Pavan, donc qui a dernièrement parcouru lors du Vendée Globe, qui est notre parrain et qui va également organiser des opérations de sensibilisation à l'environnement. Sur le site, on trouvera également des outils qui vont permettre aux organisateurs d'opérations de nettoyage de communiquer auprès de leur groupe d'opérations, comme on les appelle, avec des fiches pratiques sur les chiffres de la pollution en France et dans le monde, par exemple des fiches pratiques pour les règles basiques de sécurité lors d'une opération de nettoyage, etc.
Un ensemble de plaquettes bien utiles pour informer, etc., le Kidam. Romain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Car je te remercie, on a déjà fait un petit tour de la question.
Enfin, le site va être lancé là dans l'après-midi, on l'espère, et qu'en attendant, si le site n'est pas disponible, il y a la page Facebook et le compte Twitter des Green Days qui est disponible pour rentrer en contact avec nous et organiser des opérations de nettoyage.
C'est parfait, on se croisera sur votre stand au FIZ alors, si j'ai bien compris, vous serez présent.
Puisque le FIZ est partenaire des Green Days et a mis à notre disposition un stand, donc on va être, on va participer à l'animation de leur tout nouvel éco-village. Et donc on va avoir un stand sur lequel il va y avoir pas mal d'activités assez inédites. Et on peut pas en dire plus pour le moment puisque c'est en cours de production, mais il y a de belles surprises qui vont avoir lieu sur le stand du FIZ. Oui.
Eh ben c'est parti, on essaiera de faire traîner un micro dans ces eaux-là, les FIZ, le FIZ, je sais plus exactement la date, ça doit être du 5 ou 11 ou quelque chose comme ça.
Oui, il me semble 8 ou 12.
D'accord, ouais. Début mai, on va dire. Romain Tarusson, merci en tout cas, président de Crash Test, pour parler de cette organisation des Green Days. Toutes les informations, ça sera donc à partir de cet après-midi, lancement du site internet Green Days avec un joli z.org. Romain, à la prochaine et merci au nom des auditeurs de Divergence.
Merci, à très bientôt.
Salut. Retour dans le bocal, et oui, merveille de la technologie. Merci à Romain Tarusson qu'on avait ce matin en interview pour évoquer l'ouverture du site de Green Days. Les informations www.divergence-fm.org. On va changer d'ambiance, on va passer dans l'auberge espagnole partie culture. Et pour aborder cette transition, ce sera le groupe Le Power Trio Lyonnais Ontario qui va nous accompagner. Ils seront d'ailleurs en concert sur la minuscule scène du Black Sheep, mais ô combien chaleureuse. Ça sera ce jeudi soir, jeudi, si je ne me trompe pas, 4 avril, Ontario sur Divergence. Le Power Trio lyonnais Ontario avec ce Together extrait de leur album, leur EP, 5 titres en téléchargement libre, qui s'appelle Ontario d'ailleurs, tout simplement. Ontario qui sera sur la scène du Black Sheep ce jeudi 4 avril, si c'est pas merveilleux. Allez, c'est parti, Gérard Viol, ça va Jean-Pierre Vincent, le comédien qui présentera Ifis et Fante sur la scène nationale de cette du 2 au 5 avril 2013. Il avait en interview, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, Gérard donc au micro de Divergence FM, où j'ai le privilège, l'avantage et le grand honneur d'avoir au téléphone eh bien, un monstre sacré du théâtre, monsieur Jean-Pierre Vincent. Jean-Pierre Vincent, bonjour.
Bonjour.
Je dis un monstre sacré parce que, on peut le dire, plus de 50 ans de carrière dans le domaine du jazz, dans le domaine du théâtre. Vous voyez, je suis aussi un passionné de jazz en même temps.
Et de ce... quand j'étais petit.
Comment ?
J'en ai fait du jazz quand j'étais petit.
Dites, vous faisiez quoi quand vous étiez petit ? Alors dites-moi tout.
Ben non, je faisais du saxo alto avec des amis lycéens. On était au lycée et on jouait dans les surprises parties des années, la fin des années 1950. Voilà. Mais j'ai fait des soirées entières et des nuits entières sans savoir une note de solfège.
Ah ben vous êtes
tout
comme
à l'oreille.
Moi. L'amour de la musique pousse à tout. On va revenir, si vous voulez bien, au théâtre. Je disais monstre sacré parce que depuis plus de 50 ans, vous êtes passé par tous les stades, du metteur en scène jusqu'au, on va le dire, administrateur, directeur de théâtre. Vous êtes de la génération de Chéreau, de Deschamps. Et si je dis que vous êtes l'héritier de Villars, ça vous fait plaisir ou je vais trop loin ?
Non, ça me fait très plaisir. De Villars, de Planchon... Et puis en Europe, de Streller, de Brecht, de gens qui sont presque de même génération en Allemagne, Peter Stein, etc. En fait, monstre, on dit monstre sacré, mais au Japon, on dit trésor national vivant.
Ah ! Bon, bah écoutez, je vais rectifier le tir alors.
Hein. Oui, trésor national vivant est un truc plus chic.
Plus chic, vivant et bien vivant, parce que, faut-il le dire, vous êtes encore, et vous allez venir nous voir à 7, donc ouais. Pendant 4 jours, pour en tant que metteur en scène, avec une pièce qui date d'un auteur du XVIIe siècle. Pourquoi ce XVIIe siècle ? Qui est d'autant plus d'actualité, parce que quand on évoquera le sujet de la pièce, il est effectivement d'actualité.
Moi, j'ai toujours aimé les pièces, je me suis toujours intéressé aux pièces qui sont méprisées par, la vague portante et la consécration de l'université française. Alors, au XVIIe, c'est Molière, Corneille, Racine, mais il y a des foules d'autres auteurs, des foules de pièces qui sont très, très intéressantes et qui sont... l'humus sur lequel les grands auteurs ont travaillé. Et cette pièce-là, au fond, c'est surtout à cause de son histoire qu'elle m'a ébranlé dès que je l'ai lue. Ça fait longtemps, hein, ça fait presque 14 ans que j'ai lu cette pièce. Et la fable qu'elle raconte est étourdissante. Il se trouve que maintenant, ça rejoint une autre actualité politique et juridique qui est celle du Pax, du mariage pour tous, etc. Mais ça, c'est l'anecdote parce qu'elle parle de bien d'autres choses.
Oui, parce qu'au départ, c'est quand même le sujet principal, on pourrait le dire, est vraiment la transgression.
Oui, il se trouve que c'est une très vieille histoire, c'était une très vieille légende grecque. Hein, ça faisait partie aussi des métamorphoses d'Ovide qui avait rassemblé toutes les histoires où les dieux grecs se métamorphosaient en ceci ou en cela, et où ils métamorphosaient les femmes et les hommes. Il se trouve que là, elle n'est pas métamorphosée d'ailleurs, c'est une fille qui est élevée comme un garçon, et qui à l'âge de 20 ans, tout en sachant qu'elle est une fille, tombe amoureuse d'une fille, puisqu'elle est socialement un garçon. Et à partir de là, mille complications interviennent, à la fois par moments très stupéfiantes, très audacieuses, et parfois très comiques, très grotesques aussi.
On va peut-être donner déjà le titre de la pièce, donc c'est Ifis et Lente, et c'est une...
Ayante,
tout c'est... à fait. Et c'est une comédie, je pense, d'un auteur que peu de gens connaissent, que vous allez donc vraiment porter un peu sur le devant de la scène, c'est le cas de la dire. Ouais. Donc Isaac de Benserad, qui est beaucoup plus connu pour ses ballets d'ailleurs que pour ses parties théâtrales.
Oui. Il a été le librettiste des ballets de Versailles pour Louis XIV après. après ça. Hein, parce que cette pièce date de 1634, c'est-à-dire d'avant le classicisme français, de cette période libre, troublée, la période de Richelieu, où il y avait beaucoup d'agitation intellectuelle et libertine en France. Mais ce Benserade, par exemple, il est cité dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, parce que c'est un collègue de Cyrano de Bergerac qui lui-même était auteur dramatique.
Et comment avez-vous découvert cette pièce? Je ne suis pas indiscret.
C'est des universitaires, c'est des chercheurs qui sont spécialistes de cette période-là, qui ont déniché ça, qui l'ont édité en 2000 à peu près, et qui en ont fait une jolie édition, oui, et ils me l'ont filé à lire, et je suis tombé en arrêt, comme un chien de chasse, sur cette pièce. Et il a fallu longtemps pour que le projet se dessine, il a fallu longtemps et beaucoup d'efforts pour trouver des producteurs aussi. Parce que si vous annoncez Iphicéiante d'Isaac de Benserade, on vous regarde avec des yeux ronds. Les gens ne savent pas comment vendre ça. Donc maintenant que ça devient un spectacle populaire et que ça a beaucoup de succès partout où on l'a joué, les gens se disent « Ah tiens, on s'est peut-être trompé, on aurait dû voir plutôt l'intérêt de la chose. »
Votre compère, Dominique Buzet, vous a aidé quelque peu en cela?
Oui, oui, il n'est pas manchot. Mais nous nous sommes dépensés. Vous ne pouvez pas savoir les efforts qu'on a faits pour mobiliser un certain nombre de nos collègues directeur de théâtre. C'était une bataille de 2 ans et demi.
Oui.
En fait, j'aurais dû le faire en 2012. Et on a encore attendu 1 an parce que les conditions de la production n'étaient pas réunies. Et maintenant, c'est magique.
Mais en 2012, vous étiez déjà metteur en scène pour le fameux Don Juan de Molière.
Oui, bien sûr, bien sûr. Heureusement que j'avais de l'occupation.
Mais vous en avez tenté plus parce que, je vais quand même le dire, parce que vous avez toujours ce goût prononcé pour l'enseignement et pour la découverte et des aventures exceptionnelles, puisque demain, déjà à 7, vous serez à 11h auprès des élèves, effectivement, de la Compagnie Maritime, qui est une école de théâtre de 7. Et puis, on va quand même le dire, en juin 2013, je crois, avec Dominique Buzet, vous avez là aussi monté un projet exceptionnel, avec des comédiens totalement amateurs.
Oui, oui, je monte Les Suppliantes d'Eschyle, qui est une tragédie très ancienne et aussi très actuelle. Les extrêmes se rejoignent, vous voyez. Les tragédies grecques les plus anciennes, celles d'Eschyle, nous raconte des histoires universelles qui retombent sur des événements de notre vie et qui nous disent des choses bien plus intelligentes, évidemment, que la presse quotidienne à propos de nos problèmes. Voilà.
Il faut dire.
Alors
que...
je monte Les Suppliantes d'Eschyle avec 40 amateurs, 30 femmes et 10 hommes. Il y aura très peu de représentations à Marseille, hein, c'est du 10 au 13 juin. Parce que les amateurs, par définition, ont d'autres métiers, d'autres occupations que les professionnels.
Faut-il rappeler quand même que, eh bien, à 7, vous serez avec votre compagnie qui s'appelle Studio Libre, déjà tout un symbole dans le nom. Il faut dire que vous êtes d'une liberté totale et parfois on vous dit quelque peu provocateur. Je pense que ça vous va très bien. Engagé tout au moins.
Oui, oui, mais je me suis libéré de l'institution. Hein. J'ai dirigé des grandes institutions pendant 25 ans. Et puis j'ai vu dans le ciel se pointer un certain nombre de nuages, d'embarras juridiques, de baisse tendancielle des subventions, d'accroissement extraordinaire du nombre des compagnies, donc d'être amené à dire non à des projets de plus en plus souvent. Et je me suis dit que ça ne m'amusait plus, voilà. Et je me suis rangé dans ces compagnies qui vont tirer la sonnette des théâtres. Mais heureusement aussi, je peux travailler dans les théâtres nationaux, qui ont encore un peu les moyens.
On va quand même rappeler que même, je ne sais pas, vous m'autorisez à le dire, je pense, vous êtes quand même aujourd'hui encore administrateur du Festival d'Avignon, théâtre de l'Odéon, du Jeune Théâtre National, donc vous êtes quand même présent de l'autre côté de la barrière, si je peux me permettre.
Oui, oui, oui. Puis je travaille activement dans mon syndicat, le Syndéac, le syndicat des directeurs de théâtre public. qui a beaucoup à faire en ce moment d'ailleurs. Non, je suis libre au milieu de la tourmente. Voilà.
Monsieur Jean-Pierre Vincent, il me reste vraiment à vous remercier du temps que vous nous avez consacré. On se retrouvera bien sûr tous deux dès ce soir, ce mardi, au Théâtre National de la Scène Nationale 7 au Chez Scali, parce que vous savez, il y a eu des travaux dans le Théâtre de 7 et par conséquent, c'est au Chez Scali. J'aurai un grand plaisir à vous rencontrer. Je vous remercie encore vivement de cette interview. C'était vraiment un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi. Merci encore.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et merci à Gérard Viols qui a réalisé cette petite interview de Jean-Pierre Vincent qui présente Ifis et Fente du 2 au 5 avril 2013 et sur la scène nationale de 7. Je suis avec Guillaume Tribuchon qui m'a rejoint dans les studios. Guillaume Tribuchon de Héros Musique Danse. Bonjour Guillaume.
Bonjour Simon.
Tu retrouves
Bonjour
le
Bruno.
Studio de Divergence que tu connais bien. Et oui, nous pouvons saluer Bruno Bertrand qui réalise cette auberge espagnole. Avec toi Guillaume, on va évoquer le 34 tours car c'est reparti et on va s'adresser aux musiciens car la date limite des candidatures c'est dans pas si longtemps que ça.
C'est vendredi,
ça sera vendredi 5 avril, 34 tours, qu'est-ce que c'est, etc. On va en parler avec Guillaume Tribuchon, mais on va d'abord se faire une petite respiration musicale avec un groupe qui a participé au dispositif 34 tours, c'était l'année dernière si je ne m'abuse, Reverso Mécanique qui vient de sortir son premier album intitulé Crème. Ils étaient avec nous dans les studios en live, c'était le 2 mars dernier si je ne m'abuse, on va s'écouter au Désir, live à Divergence.
The child is drowning on Daisy Day on your body, birds in your for your love, baby shines full of your flower symphony. For your love, baby shines full of your flower symphony. It's enough. The elves jump through the bounds. The older I get, the more I regret. It's a tree, babe. The signs for love, you flower symphony. For your love, babe. The signs for love, you flower symphony. It's enough. Thank you.
Reverso Mécanique, suite à leur passage chez nous dans les studios de Divergence pour la sortie de leur album Crème. Reverso Mécanique, pourquoi on en a diffusé ? Parce qu'on aime bien déjà, premièrement, et deuxièmement, car ils étaient sélectionnés par le dispositif 34 Tours l'année dernière, qui les a aidés à pousser un petit peu et à mettre en ordre tout ça. C'est et ça. Justement, on est avec Guillaume Trébuchon, d'Héro Musique Danse, et on va en parler car c'est là. C'est la quelle année ?
C'est la 9e édition. Dis donc, c'est dingue. 9 éditions déjà. 9e édition.
Ça va pas nous rajeunir tout ça.
On n'en parle pas.
9e édition de 34 Tours qui a pour objectif principal l'accompagnement vers la professionnalisation des groupes héroltais dans les musiques actuelles, de la chanson en rock en passant par les musiques du monde, en proposant résidence, diffusion, etc. Mais je pense que tu vas mieux en parler que moi, non ?
Tout à fait. Alors, voilà. L'idée, c'est d'accompagner une dynamique de professionnalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les groupes vont passer chez nous qu'ils vont devenir par miracle comme ça professionnels. L'idée, c'est de proposer une première résidence, de proposer pour la première fois souvent un regard extérieur, de travailler vraiment dans le détail de la proposition artistique. Ça peut être aussi des résidences qui ont lieu sur la technique, on peut faire de la conduite lumière, on peut travailler sur la scénographie. Voilà, c'est vraiment au choix. On demande au groupe de faire un premier diagnostic, nous-mêmes on fait un diagnostic, on discute avec eux de quels axes serait bon de travailler. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire ?
Oui, ça se comprend.
Ça devrait aller. Voilà. Et donc on fait vraiment de l'accompagnement à la carte, que ce soit pour la résidence avec à Victoire 2, mais aussi sur de la formation plus théorique, on va dire. Avec Illusion et Macadam, c'est la nouveauté de cette année, on va proposer un diagnostic pareil sur la formation et on va essayer de développer les compétences qui ne sont pas dans le groupe. Voilà, ça peut être de la méthodologie de booking, ça peut être travailler sur la communication, ça peut être travailler sur l'image internet du groupe. Voilà, ça sera fait pareil à la carte. Voilà, l'idée, c'est qu'on travaille vraiment sur les besoins du groupe en essayant d'y répondre.
Oui, Illusion et Macadam, pour rappeler un peu également aux auditeurs ce que c'est. Donc cette structure qui est située à la Friche de Mimi, si je ne m'abuse.
Non, c'est en rue de l'Aiguillerie.
D'accord.
Nouvellement en rue de l'Aiguillerie.
Avant, c'était la Friche de Mimi.
Non, c'est le garage électrique. Je pense que tu confonds avec le garage électrique. Mais, ils sont copains, donc ça va.
Oui, bon,
non,
ouais,
c'est une structure qui fait de la formation, et pas que, puisqu'ils abritent aussi Smart, ils font des portages de projets, ils sont très en lien avec toute la création régionale. Et on travaille avec eux sur cet aspect formation, vraiment pour toujours le plus possible répondre aux besoins du groupe, parce qu'on n'est pas là pour imposer au groupe, on est là pour proposer des choses. En fait, 34 Tours, c'est juste une boîte à outils. Et on essaie de trouver les meilleurs outils pour les groupes qu'on accompagne. Et juste pour... je fais une petite incise sur les genres musicaux, puisque j'ai entendu encore moult fois, j'ai eu des débats. Voilà. Donc tous les genres musicaux sont ouverts à 34 Tours, puisqu'on a déjà fait du reggae, du metal, de la techno-indus... de la noise, de la chanson, bref, voilà, il suffit que le projet soit un peu projet artistique, soit original et au moins mûr, voilà, avec un vrai propos artistique. On prendra pas le millième sous quelque chose. Voilà, l'idée, c'est qu'on sente une personnalité artistique et surtout aussi une envie d'aller un peu plus loin que du loisir éclairé.
Et justement, pour rebondir là-dessus, les groupes qui sont déjà passés par le dispositif 34 Tours. En 9 éditions, il y en a eu quelques-uns.
Il y en a eu 19.
Voilà, et il y en a eu toujours 3 par an sélectionnés.
Ça dépendait des années. Au début, on a commencé avec 2 et on faisait beaucoup de diffusion. Après, on a recentré vraiment les choses sur le travail scénique, sur le travail vraiment, sur le travail, voilà, pas sur la diffusion. Donc, on a fait moins de diffusion et on a redistribué le budget, redéployé, on dit, en langage correct, surprendre plus de groupes et voilà, faire plus de résidences.
Sont passés dans les griffes délicates du 34 Tours les Marvin, la No Name Family, Brazouk, on peut citer également Mr. Blackstone, Mephisto, Skeleton Band, Kusain the Smoke, Muad'Dib, Scotch & Sofa, voilà 2 ans, Brazouk, je l'ai peut-être déjà cité, voilà,
Skeleton Band, Yaros, Fausta, Ofoam, car vous avez mis Ofoam de ce groupe de stoner. Bien vénère.
Yaros, je voulais en parler,
tu m'as acheté
ma transition.
Pardon, je retiens.
Car tu nous as amené Yaros, effectivement, qui est passé entre les mains de 34 Tours. Yaros qui vient de ressortir un dernier disque, c'est
ça ? Qui sort un deuxième album la semaine dernière, je crois qu'il est sorti ce disque. Il est très bien. Je ne dis pas ça parce qu'on a travaillé avec lui. Voilà. Après, c'est comme souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 34 Tours, c'est une boîte à outils. L'idée, c'est que les groupes, ils bossent avec. Parce que les outils, moi j'en ai plein chez moi et je suis très mauvais au bricolage. Donc si tu fais rien avec les outils, il ne se passe rien. Voilà, l'idée, c'est qu'on apporte de l'eau au moulin du groupe, mais ce n'est pas moi qui fais tourner la roue.
Oui, voilà. Ouais. C'est un accompagnement.
C'est ça.
Un accompagnement pendant un an avec cette résidence, etc. On va s'écouter un extrait du nouvel album de Yaros. Comment s'appelle-t-il ?
L'album s'appelle Renversé et le titre qu'on va écouter s'appelle Night and Day. C'est un peu le single étonnant du disque.
Et ben c'est parti.
Sur les nouvelles, avec les yeux qui se font la belle, night and day. Le son qui pue à perdre haleine, et moi je sais, mais toi tu sais, night and day. La gueule ouverte, la tête en vrac, mais comme y'a tout qui se détraque, night and day. La peau froissée, night and day. Couché debout sans avancer, y'a le temps qui passe, y'a le temps qui passe. Couché debout sans avancer, y'a le temps qui passe. Costard taillé, grand couturier, les bras liés, les bras cassés, night and day. J'suis apeuré, moi j'suis blessé par les années sans exister, night and day. Un horizon sans oraison, le ventre plein de soumission, night and day. Sans oppression, la bouche pleine de passion, night and day.
Un extrait du nouvel album de Yaros, c'est Guillaume Tribuchon qui nous l'a gentiment ramené pour nous faire découvrir à vous, chers auditeurs, et à nous, chers animateurs et réalisateurs. Bruno Bertrand, nous te salue encore une fois. Pour parler du dispositif, 34 tours, 9e édition, on en parle avec Guillaume depuis une petite dizaine de minutes, on va continuer à en parler pendant une petite dizaine de minutes. Concrètement, moi je suis un groupe de jeunes héroletais et j'ai envie de concourir
on
à ce dispositif.
On ne prend pas que les jeunes, hein. Les vieux aussi ont le droit.
Oui, voilà, je suis un jeune groupe de vieux héroletais qui fait de la musique dans les musiques actuelles et je fais tous les styles de musique et j'ai envie de candidater à ce dispositif d'accompagnement musical concrètement. Comment ça se passe?
Alors, on a mis des petits critères en place. L'idée, c'est que le groupe, il a envie d'aller un peu quelque part avec voilà, qu'il a envie de faire une carrière, entre guillemets. Que ce ne soit pas juste un groupe qui fait ça en loisir, même si c'est très bien de faire ça en amateur, on l'a tous fait, mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a un investissement un peu concret. Donc, il faut avoir fait une vingtaine de concerts, il faut avoir enregistré 4 ou 5 titres en studio, et non pas forcément à la maison. Il faut avoir être localisé dans l'Hérault, et non pas juste avoir une boîte aux lettres dans l'Hérault chez Tata Jeannette pour faire le joint. Qu'est-ce qu'il faut avoir d'autre? C'est tout, je crois. Hein.
Ouais.
Voilà.
Je reprends la liste. Exister depuis au moins 2 ans.
Ah oui, c'est ça. Il faut avoir au moins 2 ans d'existence, enfin un peu de bouteille, quoi. Voilà. Ouais. Et avoir une formation musicale stable aussi. Les groupes qui changent de line-up tous les 6 mois, c'est toujours un peu compliqué pour stabiliser une histoire. Voilà, il faut avoir quelque chose d'un peu assis, quoi. Mmh.
Ouais. Un répertoire original de chansons originales, doté d'au moins 45 minutes.
C'est vrai.
Voilà. Et donc une vingtaine de concerts depuis la création du groupe et posséder un enregistrement de minimum 4 titres, ce qui fait quand même pas mal de groupes. On en discutait.
C'est ça.
Hors antenne, pas mal de groupes. Comment ça se dit? Éligibles. Voilà sur. Sur le territoire de Montpellier, de son agglomération, voire de son département.
Oui, c'est le département. Ouais.
Voilà. Concrètement, après, il y a un jury. Donc, du coup, les inscriptions, les dossiers d'inscription qu'on peut retirer, qu'on peut imprimer sur le site aeromusicdance.fr.
Tout à fait, en page d'accueil, bim.
Bim, c'est parti. Jusqu'au 5 avril pour la déposer.
Ouais, et il y aura après, bien quelques retardataires.
Oui, il y en a toujours. et ensuite, c'est un jury qui est composé.
C'est ça. Ce n'est pas moi tout seul qui choisis, comme je l'ai entendu moult fois de la part de bien mauvaises langues. Puisque mon avis compte, comme pour tous les membres du jury, une voix.
D'accord.
Et on est 10 en général. Le jury est renouvelé par tiers tous les ans,
okay.
Voilà, histoire qu'il n'y ait pas d'habitude. Voilà, donc il y a des journalistes spécialisés en musique, il y a des... tu pourras peut-être en faire partie l'année prochaine d'ailleurs. Toi qui as des goûts éclairés, il y a des diffuseurs...
locaux.
Urbains,
ouais.
Et ruraux, il okay. Y a des festivals, et voilà.
D'accord.
On change chaque année. Voilà, l'idée c'est qu'on... Dans les critères qui ne sont pas explicites en tout cas, puisqu'il y en a quand même un, c'est qu'on fait vraiment attention à la dynamique qu'il y a dans les groupes. Mmh. C'est-à-dire que les groupes qui font très, voilà, qu'on voit de manière très épisodique, c'est vrai que ce sera moins considéré qu'un groupe dont on sent qu'il y a vraiment une quelque chose qui va vers l'avant. Mmh. Voilà. Plus de diffusion, plus de projets, plus de visibilité. Voilà. On sent que, voilà, qu'il y a une envie d'avancer.
J'imagine que vous êtes aussi sur les routes un peu tout le temps pour essayer de déceler les nouvelles dynamiques, etc.
Et ben, dans mon travail, je sors.
Voilà.
Comme tous les gens qui travaillent dans la culture, je vais voir des spectacles et des concerts.
Mmh. Pour aller voir ça, là. Rapidement, avant de terminer, la tendance de cette année, tu disais qu'il y aurait.
La tendance cette année, bah, y a tout. Hein, ouais. Y a plein de groupes qui sont très dynamiques, que ce soit dans le métal. Ou dans la chanson, ou voilà. Donc après, voilà. Le seul truc, c'est que, je le rappelle chaque fois, c'est que ne sont sélectionnés que des groupes qui postulent. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a des groupes qui ne voient pas l'utilité de postuler à ce truc-là, et c'est tout à fait respectable. Mmh. Mais voilà, nous, on choisit dans les groupes qui postulent, forcément, ce qui démontre déjà une envie de participer au truc. Et voilà. Donc après, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Le jury se réunit le 15 avril, c'est désormais officiel. Et donc le 16 avril, j'y verrai beaucoup plus clair sur les choses à travailler.
Eh ben, on verra tout ça alors. On verra tout ça sur les sélections de cette 9e édition de 34 Tours. Merci Guillaume de
Merci
ton nouveau passage dans nos studios. On va se quitter, on va clôturer cette auberge espagnole avec un titre bien sympathique du saxophoniste Soweto Kinch qui sera dans pas si longtemps au Jam. Et si je ne m'abuse, ce sera le 12 avril, tout simplement. C'est pas ça?
Si, c'est ça, mais je ne pourrais pas y aller parce que je vais voir autre chose.
Hein, pardon, excuse-moi. Je t'ai pas entendu.
Non, je voulais aller voir ce truc, mais je suis déjà pris ailleurs.
D'accord.
Dommage pour moi.
On en parlera pour on ira voir ça pour toi, et même tu pourras écouter Divergence, car il y aura une interview qui sera réalisée de Soweto Kinch et qui sera en écoute la semaine prochaine. Mais oui. Qui sera en écoute en podcast sur notre site www.divergence-fm.org, comme tous les informations de cette magnifique auberge espagnole où on a discuté socio-anthropologie, on a discuté environnement en milieu urbain, on a discuté comédien à 7 et musique locale avec le 34 Tours. C'est parti. Merci à Bruno Bertrand à la réalisation de cette émission. Nous, on se retrouve la prochaine fois, ou peut-être ce sera Gilles Gouget qui me remplacera. Bon après-midi, chers auditeurs.
Au revoir.
I'm the line no one takes time to trace. They'll never find my hiding place, cause I'm the face behind the face. Annihilate my wire cage, hired slaves for higher stakes. So I'm the face behind the face. I am pandemonium. Heart as black as Iraq petroleum. Slash opium seeds. While mothers are slaughtered, soldiers openly grieve. I stay paid off weapons deals, still holding the reed. So many owe me the belief. The church deacons to Obia chiefs could only hope to achieve. No henchman, I'm less sensible. Puncture your left ventricle, disable your centers when arrowheads enter you. I can't count those I train to speak. Pockets bulging trade receipts or disengaging naval fleets. Statements leak in vain, they seek corn and maize to eat. I'm paid while claiming grain and seeds deplete. All hail and give praise to me. I thrive in instability, sprinkle mix instant military. Fear my infamy, eliminate all who have an infamy. Invisibly conducting arms without symphonies. Jeopardize with steady weapon supply. Loaded semis and knives assembled to sever a tribe. I give the genuine axis of evil access to people. To aqueous diesel and gallons of refill. I the future's market, the future's smartest. Won't be shooting a moving target. I'm the line no one takes time to trace. They'll never find a hiding place, cause I'm the face behind the face. Annihilate my wired cage, hire slaves for higher stakes. So I'm the face behind the face. I'm the line no one takes time to trace. They'll never find my hiding place, so I'm the face behind the face. I'll drop a round of bombs on a hospice basement, just to compensate for my loss of patience. Cluster bombs in concentrations is more commonplace than comma placement. Is the abomination an abomination when they bomb a nation? As if my occupation's occupation. I'm the heart and brains, the armored planes. I'm the arms and faces, the arteries and veins. I'm not the one that's funding war. I'm paper printed stuff in floors, stuffing in the cupboard doors. I'm wind, smoke and nothing more. Am I here or chimera, an idea or fine air? I'm the line no one takes.